Bonjour à tous. Kauter me faisait remarquer à juste titre que vous êtes très ponctuel. Le public de Brive est très ponctuel. Merci. Ça fait plaisir. J'attends juste qu'on me donne le feu vert si au niveau. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, je suis entourée de trois auteurs qui, chacun à leur manière, nous parlent de l'Algérie. Trois récits de vie marqués au fer rouge de la colonisation et de la décolonisation. Ce sont les vies de vos aïeux, de vos ancêtres, de vos parents, vos grands-parents, qui ont construit les hommes et la femme que vous êtes aujourd'hui, mais aussi qui ont fabriqué, qui ont participé à fabriquer l'auteur que vous êtes aussi devenu. Voici trois livres qui disent la brûlure d'amour de l'Algérie. Trois livres qui racontent la douleur de l'exil, la nostalgie d'une époque, la mélancolie des paysages. Des voix de la Méditerranée qui nous chantent un passé qui revient sans cesse, recouvre d'ombre ou au contraire éclaire le présent. Trois livres qui s'inscrivent dans l'histoire avec un grand H, mais qui peuvent s'adresser à chacun d'entre vous. Car ils parlent des origines. D'où venons-nous ? On ne grandit bien que lorsqu'on a des racines puissantes et profondes. Dans ces romans, il est aussi beaucoup question de l'enfance et des secrets de l'enfance. L'Algérie, c'est le pays du souvenir, de tout ce que l'on sait, mais ce que l'on tait, les mots qui délivrent et les mots que l'on enterre. Kauter Adimi, je commence avec vous.
Bonjour tout le monde.
Ravie de vous retrouver, puisqu'on se faisait la remarque que je vous avais, je crois, interviewé ici même pour Nos Richesses, votre précédent roman.
Celui d'avant encore.
Celui d'avant.
Oui, il y en a un.
Vous êtes algérienne, vous vivez à Paris depuis plusieurs années, mais vous nous disiez aussi que vous voyagez pas mal, puisque l'année dernière, vous étiez à Rome, à la Villa Médicis. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, ce séjour vous a inspiré une bonne partie de ce roman. Vous aviez eu le prix de la vocation en 2011 avec votre premier roman « L'envers des autres » chez Actes Sud, suivi par « Des pierres dans ma poche », paru aux éditions du Seuil où vous êtes aujourd'hui. « Nos richesses » racontaient l'histoire d'une librairie à Alger, des années 30 à nos jours. Vous aviez eu, grâce à ce livre, le prix Renaud des lycéens, le prix du style 2017, le prix Beurre FM Méditerranée 2018. Et vous revenez cette année donc avec ce très beau roman, Au vent mauvais, qui est un petit peu le pendant de « Nos richesses ». Puisque dans Les Richesses, vous racontiez l'histoire d'une librairie très connue d'Alger, où la littérature était plutôt associée à une libération. Et cette fois, vous allez peut-être prendre le contre-pied en montrant que la littérature, que les mots en général, peuvent aussi enfermer. Alors déjà, dans la structure du livre, qui est très très intéressante, puisque vous parlez d'un livre dans le livre. Il s'agit donc de trois protagonistes qui sont à la fois les héros du premier livre et ensuite du second, puisque Saïd, Leïla et Tarek vivent et viennent du même village, un village situé à quelques kilomètres d'Alger. Saïd va devenir écrivain et va écrire le premier roman de langue arabe, qui est donc un événement très important post-colonisation dans l'Algérie indépendante. Et les personnages de ce livre sont Leïla et Tarek. Et en publiant ce livre, il va les enfermer. D'abord, première chose, est-ce que cette histoire a un goût particulier pour vous, évoque quelqu'un dans votre famille ?
Alors, Au vent mauvais, c'est un roman que je porte en moi depuis très longtemps. Ça fait à peu près 15 ans que je pense à ce livre. Il fallait l'écrire au bon moment, c'était le bon moment. C'est un roman très intime pour moi parce que c'est une histoire qui en tout cas a pour point de départ l'histoire de mes grands-parents qui sont des gens pas connus du tout. Mon grand-père a été tour à tour berger, ouvrier, maçon, etc. Ma grand-mère a été femme au foyer, elle a connu la vie d'une femme de la vie, enfin rurale de l'époque, née au début du XXe siècle. Elle a eu, elle a été mère et voilà, un peu enfermée dans ce rôle-là. Elle n'est jamais allée à l'école, elle ne sait pas lire et écrire. Et quand j'étais à l'université d'Alger, dans l'un des livres au programme de la fac, j'ai eu la surprise et le plaisir de découvrir qu'il y avait un livre qui se passait dans le tout petit village de mes grands-parents, qui vraiment est un village, enfin village est déjà un trop grand mot pour caractériser cet endroit. C'est vraiment un hameau, il y a 5-6 maisons et il ne s'est jamais rien passé à ma connaissance là-bas. Et je découvrais dans ce livre qu'il y a un livre qui se passait là-bas, c'était assez extraordinaire. Et puis en lisant ce roman, qui se passe dans les années 70, qui est un roman de langue arabe, le premier roman de langue arabe, je découvre que le personnage principal porte le même prénom que ma grand-mère, qui est un prénom assez rare, à vrai dire, pour l'époque. Et puis, il y a un autre personnage qui a le même prénom que mon grand-père. Bon, voilà, 1 plus 1 égale 2. Du coup, je découvre qu'en fait, mes grands-parents ont été, malgré eux, transformés en personnages de fiction par un homme qui a été ce qu'on appelait le frère de lait de mon grand-père, parce que la mère de mon grand-père a été sa nourrice, l'a allaité en même temps que mon grand-père, et que c'était le meilleur ami de mon grand-père, et qu'un jour, il a publié ce livre-là, où il transformait ses amis de jeunesse, ses amis d'enfance et d'adolescence en des personnages de fiction. Et c'est un roman qui a bouleversé mes grands-parents et qui a généré ensuite toute une série d'événements pour eux et donc pour ma famille et sans doute pour moi a posteriori, qui les a forcés à quitter la ville. Et je ne vous dévoile pas tout le roman, c'est vraiment ce que je raconte au tout début du livre. Qu'on ait transformé des gens en personnages en gardant les mêmes prénoms, en gardant le même nom du village, donc ils étaient totalement identifiables. Puis, enfin, vraiment, c'était leur prénom, leur nom, le nom du village, toutes les caractéristiques qui les définissaient. Cette façon qu'on a eu du coup d'effacer les vraies personnes que sont mes grands-parents pour les transformer en un livre. Et puis c'était des gens pour qui le livre ne voulait rien dire. Il n'y avait pas de livre à la maison, ils n'étaient pas allés à l'école, c'était vraiment un pur produit de l'indigénat. Ma grand-mère ne sait pas lire et écrire, n'a jamais lu donc ce livre-là où son nom est inscrit. Pour moi, c'était assez bouleversant de poser la question du pouvoir du livre, du pouvoir de l'écrivain, et de comment un objet qui pour les gens qui ne lisent pas est un objet assez, en fait, assez inutile. Si on n'aime pas lire le livre ne sert à rien, ce n'est pas une casserole, il n'a pas en tout cas de fonction primaire, alors que quand on lit, il a une fonction plus que primaire, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Quel rapport on a au livre lorsqu'on ne sait pas lire et lorsqu'un livre a dévasté notre vie, a causé des choses bouleversantes? Et c'est ce que j'ai eu envie de raconter dans ce livre, qui est un roman, qui est vraiment part de ce point de départ, de cette histoire familiale, pour se déployer sur tout un siècle d'histoire, ce qui commence au début des années 20 et se termine en 1992, au moment où l'Algérie bascule dans la guerre civile, dans le terrorisme. Et j'ai eu envie de donner une autre possibilité, une autre histoire à ces deux personnages que sont Tarak et Leïla. Et puis en filigrane, cet ami, cet écrivain qui est là du début à la fin. Et de me demander, enfin moi c'était vraiment le point de départ, et vous parliez de la Villa Médicis, c'est une question que j'ai adressée à tous les artistes de la Villa, qui est: est-ce que nous, artistes, qui avons finalement le pouvoir le plus incroyable qui soit, on est un peu comme Dieu, on peut imaginer des univers et faire des personnages ce qu'on leur souhaite, est-ce qu'un grand pouvoir veut dire une grande responsabilité? Est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, d'utiliser la vie des gens qui nous entourent? Ou est-ce qu'on n'a pas, ou est-ce qu'il y a une espèce de ligne à ne pas franchir, une espèce de limite? Je ne sais pas si elle serait éthique ou si elle serait juste morale ou elle serait amicale ou familiale, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a une ligne quelque part qu'il ne faut pas franchir? Et en effet, nos richesses et au vent mauvais résonnent en quelque sorte, parce que pour moi, nos richesses, c'était un peu, au contraire, c'était la force de la littérature comme une espèce de magie blanche qui dépasse tout, qui dépasse les guerres, qui vit au-delà, parce que la librairie de Charlot a réussi à survivre malgré la guerre d'Algérie, malgré la Seconde Guerre mondiale, malgré le terrorisme, malgré aussi une politique algérienne qui tend à effacer les traces d'avant 62. Et là, au vent mauvais, j'avais envie de poser une autre question qui se tendait plus vers une espèce de littérature, de pouvoir un peu malfaisant, de magie noire, et quel est-il, et qu'est-ce que nous sommes, nous, écrivains? Et que deviennent les personnages une fois qu'on a fermé le livre, une fois qu'on a vampirisé des gens, qu'on les a utilisés comme on le souhaitait, qu'est-ce qu'ils deviennent? Voilà, c'est ça l'histoire d'Au vent mauvais.
Kauter Hadimi, quand vous avez découvert, vous étiez étudiante, ce livre, vous avez dit qu'il a fallu attendre le bon moment. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre finalement presque 15 ans? Parce que c'était difficile d'écrire à nouveau sur vos grands-parents, même si je crois que vous avez changé les prénoms justement pour ne pas leur voler leur vie une seconde fois. Mais qu'est-ce qui était le plus difficile de faire votre enquête? Est-ce que vous avez rencontré l'auteur?
Alors, l'auteur est décédé, et qui est un auteur, par ailleurs, que j'aime beaucoup. Et ce qui était difficile, c'était... Il y a deux choses. Il y a quelque chose de très personnel, c'est que au moment où je découvre cette histoire, c'est le moment où moi-même, je deviens écrivain, au sens où moi-même, je commence à publier. Et je me sens une espèce de filiation avec cet écrivain qui me met extrêmement mal à l'aise. Parce que mon grand-père, donc, qui n'a pas fait d'études, qui était ouvrier, etc., est mon grand-père. Et mais je me sens une espèce de filiation parce qu'il y a un homme, tout d'un coup, il y a un homme qui vient se rattacher dans l'arbre généalogique, qui est écrivain, qui est ce que je souhaite devenir. Et donc, il y a une espèce de sentiment un peu de trahison à l'égard de mon grand-père par rapport à cette histoire-là. Et donc, je mets de côté cette histoire pour cette raison-là en premier. Et la deuxième raison, c'est que mes grands-pères, au moment où je publie ce livre-là, mes grands-pères sont vivants. Mon grand-père est décédé depuis. Ma grand-mère est toujours en vie. Et je ne veux pas, il y a 15 ans, je ne veux pas commettre le même méfait, entre guillemets, même si en effet, j'ai changé tous les noms de l'écrivain, de mes grands-parents, du village, etc., que j'ai veillé à remettre de la fiction dans la réalité pour ne pas que ce soit de nouveau un ouvrage sur eux, mais un ouvrage sur une autre possibilité. Et j'ai attendu que pour eux, ce soit le bon moment. Et c'était pour moi, ça, c'était important. J'avais le temps de mûrir ce livre-là et je suis heureuse de le faire à ce moment-là.
Bon, je reviendrai vers vous pour la Villa Médicis et pour le personnage de Leïla aussi, qui est très, très beau. Mais j'aimerais poser la question que vous avez posée sur la question de la responsabilité à Jean-Noël Pancrazy et puis Emmanuel Ruben, puisque vous aussi, dans vos livres, vous parlez de vos familles respectives. J'imagine que cette question, elle vous taraude aussi et que peut-être que vous voulez te poser avec des réponses différentes. Est-ce que vous avez eu le besoin, la nécessité de changer les prénoms? Jean-Noël Pancrazy, tout d'abord.
Non, jamais. C'est-à-dire que lorsque j'ai écrit, ce n'est pas le premier livre que j'écris sur ma famille, sur mon père, sur ma mère, mais sur d'autres membres de la famille, depuis Madame Arnoul, puis il y a eu la montagne, tout ce qui concerne l'Algérie. Je ne change ni les noms des lieux, ni les noms des personnes. C'est peut-être une responsabilité supplémentaire, parce que je ne peux pas écrire si je change leur prénom. Donc ça fait partie de la vérité du livre que de garder leurs prénoms et leurs caractéristiques. Lorsque je parle de ma grand-mère Joséphine, évidemment, je ne l'embellis pas forcément en parlant de ses mains crevassées, rouges à cause de l'eczéma. Lorsque je parle de mon père au son retour d'Algérie, qui est un homme complètement cassé, qui cherche un travail en vain dans les rues de Perpignan, je ne peux pas en parler avec un autre prénom. C'est une responsabilité, mais il me semble que l'écrivain a un devoir, pas vis-à-vis de lui-même, mais vis-à-vis de la vérité, sans employer un grand V à vérité. Et qu'il doit aussi en assumer les conséquences. C'est-à-dire, si quelqu'un de la famille rejette le livre ou n'est pas content, il sera aussi lui-même rejeté. Mais ça fait partie du travail de l'écrivain. Et donc, je m'interdis de gommer, de calfeutrer, de déguiser. Et d'ailleurs, j'ai dit « je ». Et quand je dis « je », c'est moi. Je ne dis pas « c'est peut-être moi, c'est un... » Non, c'est moi peut-être réinventé, mais je prends aussi le risque, ce n'est pas de la fiction. C'est un récit. Donc, si je dis récit, j'essaie moi aussi, le travail de l'écrivain, c'est de retrouver la vérité d'un pays, la vérité des autres et sa propre vérité. Moi aussi, je prends le risque de m'exposer complètement. Mais peu m'importe ce qu'on peut penser de moi, au fond. Je m'expose avec tous mes défauts, avec toutes mes erreurs, avec mes dérapages, avec ce que je pense aussi de la politique, de l'évolution d'un pays, etc. Je prends tous les risques. Mais il n'y a pas de littérature sans risque. Sinon, ce n'est pas la peine. Hein. Ce n'est pas la peine d'écrire. Et plus ça va dans mon existence, au début, j'écrivais plutôt quelque chose qui était plus fictionnel. Et plus ça va, j'ai besoin de dire la vérité. Alors, quand on dit la vérité, bien sûr, il ne faut pas... Ce n'est pas quelque chose de sacré. Mais quand même. On sait, moi, je sais très bien... Vous voyez, quand je commence à écrire un livre, je sais très bien si je fais faux, comme disent les enfants. Je fais faux, c'est faux. Je sens très bien quand c'est artificiel et je ne peux pas continuer le livre. parce que je me mets à trop inventer ou à trop réinventer, au fond, à trop mentir, à trop me mentir. Donc, un des critères, c'est quand je suis assez, disons, assez sensible à ce que j'écris, je sens que je suis dans la vérité. Je ne dis pas dans la beauté, forcément, parce qu'après, il y a une question de la vérité, il faut aller à la beauté. Mais il y a... Et puis, on se trompe très souvent. On se trompe très souvent sur l'accueil et sur le regard qu'ont les autres sur vos livres. Parfois, on est surpris. On a cru dire du mal de quelqu'un qui vous en remercie. Et à l'inverse, on a cru dire infiniment de bien de quelqu'un qui vous en veut parce que vous avez parlé trop directement de vous. Je crois que ce n'est pas tant la famille que ce sont les autres, ce sont les lecteurs. Là, ce matin, je voyais quelqu'un à Brive là, qui venait, qui m'a parlé. Il me parlait mieux que n'aurait fait n'importe qui de mon livre, plus que des gens qui avaient été très proches de moi. Donc, écoutez, il faut prendre le risque.
Alors, voilà. L'enjeu du livre, si je peux réagir. Enfin, moi, je pense que c'est une mauvaise idée que de faire un parallèle, parce que Jean-Noël, il parle d'un récit où c'est son histoire et c'est ses parents. Moi, c'est pas du tout le cas. Enfin, et puis par ailleurs, moi, mes grands-parents auraient aimé que je garde leur prénom. Mais je trouvais que c'était une mauvaise idée parce que garder leur prénom, ça m'imposait de garder une vérité dans leur histoire. Ça veut dire que je ne pouvais plus faire ce que je voulais dans l'histoire parce que je ne pouvais plus inventer leur histoire et leur parcours. Et ce qui est très vrai, ce que dit Jean-Noël, quand même,
c'est l'inverse que fait Jean-Noël.
Et moi, je souhaitais cette liberté absolue de faire de mes personnages ce que je souhaitais parce que je souhaitais les enfermer dans un roman. Et changer les prénoms m'a donné cette liberté-là, c'est-à-dire de pouvoir les emmener ailleurs. Ce que je n'aurais pas pu faire si je racontais l'histoire de mes parents, ce serait l'histoire des parents, et je pense que ce serait extrêmement violent pour moi que de leur donner d'autres prénoms. J'aurais l'impression de masquer mon histoire. Alors qu'ici, à l'inverse, ne voulant pas de nouveau raconter l'histoire de ces personnes exactement, mais voulant partir tout de même d'une histoire familiale, d'un bouleversement qui s'est passé, c'est ce que j'ai fait. Mais changer les prénoms, ça a été une forme de liberté totale. D'un coup, le champ des possibles était infini et je pouvais les emmener où je voulais.
Et dans le récit de Jean-Noël Pancrazy, ce que j'ai trouvé formidable et l'enjeu du livre, c'est justement de se réapproprier votre mémoire, d'essayer de remettre les faits chronologiquement dans le bon ordre, d'essayer de faire cette enquête sur vous-même. D'ailleurs, le titre parle de lui-même. Ces années manquantes, c'est celles qui vous avaient fait défaut parfois. Vous aviez tourné autour, vous ne vouliez pas vraiment vous confronter à elle ou...
Je ne m'en souvenais pas, tout simplement. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait des années 62 aux années 67 ? C'était pour moi une sorte de noir encore.
Un trou de mémoire ?
Pas un trou de mémoire, mais je ne voulais pas m'en souvenir parce que je savais que ça avait été des années très dures. Le retour d'Algérie, mes parents étaient retournés en Algérie parce que mon père ne pouvait pas quitter l'Algérie. D'ailleurs, il n'aura jamais
quitté. Que faisaient vos parents d'ailleurs ? Ils étaient retournés comme coopérants.
Mon père travaillait, était employé dans une minoterie.
Après la décolonisation, après l'indépendance.
Et ensuite, comme la propriétaire des grands moulins, tout le monde était parti, elle a donné une sorte de promotion à mon père, qui est de petit employé devenu directeur d'une minoterie. Et il est reparti pour tenir cette minoterie, avec tout son courage, sa volonté. Et puis, mon père parlait arabe. Mon père n'a jamais pu quitter l'Algérie, vraiment. Et il était à Borj-Boïrid. Il y avait très peu d'Européens qui étaient restés. Mais il est resté quand même, avec beaucoup de volonté, jusqu'à ce que la minoterie soit nationalisée par l'État. Donc, il a dû, bien sûr,
Et il est partir. Parti avec votre mère.
Voilà.
La raison pour laquelle vous avez été laissé...
Alors, moi, j'étais seul en France, à Perpignan mais je me disais, mais où j'étais dans ces années-là ? Parce que... Et peu à peu, j'ai dû me souvenir, j'ai dû faire un effort. Mes parents m'avaient laissé chez une grand-mère dans un village à côté de Perpignan, qui était Tuir, dans une grande maison louée, un peu ingrate, un peu froide... Et j'allais au lycée tous les jours avec la tramontane qui était un vent qui n'était pas le vent algérien par excellence, qui était un vent glacial. Et j'avais donc cette vie avec cette femme-là que je connaissais très peu. Et avec une France qui, à l'époque, était hostile envers les Français d'Algérie. Je me souviens très bien que c'était très difficile pour moi enfant d'Algérie, d'être accueilli. Je ne l'étais pas, j'étais seul dans mon coin au lycée, dans le bus aussi j'étais seul, puis je rentrais dans cette maison où j'étais seul avec cette vieille femme aux mains, comme je disais, rougie par l'eczéma. Et donc j'ai fait un effort pour me souvenir de ces années-là, et peu à peu là aussi quand même, pour essayer de voir quelle était la vérité de ces années-là. Et puis après mes parents sont revenus, eux aussi, ça a été très difficile parce que c'était l'enfer conjugal, mais qui était déjà là en Algérie, où ils ne s'entendaient pas, ils ont divorcé, jusqu'à ce que je parte à Paris, qui, comme dit la chanson, m'a pris dans ses bras. Mais ces années-là, c'était des années manquantes. Quand je dis des années manquantes, oui, parce que j'ai eu l'impression d'avoir des années où il fallait tenir, il fallait serrer les dents, il fallait bien travailler à l'école, il fallait que je m'en sorte.
Vous étiez entouré de personnages qui ont beaucoup souffert aussi, qui ont mené plusieurs guerres.
Oui, parce que moi, c'était une famille en plus. Moi, je n'ai pas eu la notion de famille réunie. C'était une famille complètement cassée de tous les côtés, morcelée. Et là aussi, il y avait ce personnage de mon oncle, le frère de ma mère, donc le fils de ma grand-mère qu'elle adorait, qui était un militaire qui avait fait les campagnes d'Indochine, qui avait fait la campagne d'Algérie si on peut dire, et qui avait été ensuite démobilisé, et une fois qu'il était démobilisé en France, a sombré dans l'alcool et qui était devenu un octambule et qui venait s'abattre le matin dans les bras de ma grand-mère après avoir passé des nuits entières au casino, au Lydia, qui était un paquebot ensablé, qui était une boîte de nuit. Mais j'ai une adolescence un peu étrange, parce que j'étais à la fois très tenu dans cette maison, et en même temps, cet homme, Noël, qui avait un certain panache quand même, m'entraînait au Lydia, j'avais 13 ans, et donc j'ai connu des nuits blanches dans cet établissement, dans ce bateau, cabaret. Mais cet homme m'a toujours fasciné. Mais aussi, là, je ne me souvenais plus tellement bien de lui. Et je me suis dit, mais comment j'allais quand même déjà au Lydia ou dans d'autres cabarets. Il y avait le casino d'Argelès et tout ça. J'ai dit, ben oui. Et donc, c'est aussi une interrogation sur moi-même quand même, parce que tout était... Là, ces années de formation étaient des années, je dirais, presque de déformation, si on peut dire, hein, sans jugement moral. Mais je leur suis très reconnaissant aux uns et aux autres.
Voyez. Et cette solitude que vous avez eue vous a aussi formé.
Voilà,
vous a amené
donc
à lire
là, d'ailleurs, le livre se termine sur cette phrase, à eux qui m'ont tout donné. Oui. Donc, vous voyez, tout à l'heure, vous parliez de dire est-ce qu'on peut dire la vérité ou pas, mais je leur rends aussi hommage.
Parce que je crois que vous aviez failli titrer le livre « La famille de Cinglé ».
Oui, comment vous savez ça? Non, j'ai dit « La famille ». C'est vrai, à un moment donné, j'avais failli appeler le livre « La famille Cinglé ». Mais « Cinglé », c'était un petit peu péjoratif quand même. C'était un petit peu péjoratif. Je sais que moi-même, ma mère tout dit « Il y a une case qui te manque. Il y a une case manquante aussi. » C'est vrai, elle me disait « Cet enfant a une case manquante. » Qui manque, pas manquante. Mais après tout, pourquoi pas? C'est parce que peut-être j'ai eu cette case qui manque, que j'ai pu faire quelque chose dans l'existence, je ne sais pas. Mais voyez, donc et puis eux-mêmes étaient tous cassés par la guerre d'Algérie, par le retour de l'Algérie. Voilà, c'était tout le monde était cassé. Voilà, à un moment donné, et personne ne s'est jamais remis de ces cassures, ni mon père, ni ma mère, personne autour, jamais. Emmanuel. Un enfant, oui, parce que l'enfant peut se réadapter, bien sûr. Il a la capacité. Je vous ai interrompu, excusez-moi.
Non, c'est moi, je suis désolée. Je reviendrai à vous tout à l'heure, mais Emmanuel Ruben, je vous repose aussi la question pour introduire donc, Les Méditerranéennes, paru chez Stock, qui est un très, très beau roman à la manière de contes orientaux, à la manière de Scheherazade. Vous avez La Porte d'entrée, qui est un chandelier à 9 branches et qui va permettre de raconter plusieurs histoires à chaque fois qu'on allume une bougie pour Hanouka, qui est la fête juive qui célèbre Noël, la fête des Lumières. Est-ce que, avant de nous parler des Méditerranéennes, est-ce que vous vous êtes posé cette question de dissimuler, d'avoir le droit ou non de raconter une histoire, ou est-ce qu'au contraire, ce sont les femmes de votre famille qui vous ont demandé de raconter? les histoires.
En fait, moi, je crois que nos vies sont faites de réel et de fiction. Et dire la vérité d'une vie, c'est dire à la fois le réel et la fiction. Dans mon deuxième livre qui s'intitulait Kaddish pour un orphelin célèbre et un matelot inconnu, qui était un récit, pour le coup, qui n'était pas un roman, j'avais essayé de m'interdire toute fiction. Et en fait, j'ai pas tenu à la fin. Donc c'était centré autour de la figure de mon grand-père, du père de ma mère, qui s'est suicidé en 57 pendant la guerre d'Algérie. Et donc j'avais en fait j'avais comblé toutes les lacunes par des phrases de Camus, parce qu'en fait il était né la même année que Camus. Et à la fin, je disais que s'interdire, en fait, s'interdire la fiction, même dans un récit autobiographique, ce serait un peu comme faire une promesse à la nuit qu'on ne va pas rêver, en fait. Dans nos vies, il y a du rêve, il y a du fantasme. Et mes personnages, ils rêvent toujours. Je crois dans tous mes romans, il y a toujours des rêves. Je pense que c'est important. Moi, je crois que la moitié de ma vie est faite de rêves, en réalité, que je note souvent. Je note presque pas tous mes rêves, mais j'en note beaucoup. Et donc, à partir de là, je pense qu'à partir du moment où on écrit un roman, là pour le coup, c'est un roman. Ce n'est pas un roman autobiographique. À la fin, je le précise. Je dis que c'est un roman partiellement et librement inspiré de ma famille maternelle, de l'histoire vraie de ma famille maternelle. Je pense qu'à partir de ce moment-là, voilà, on peut tout s'autoriser. En fait, tout est permis. Tout est permis, sauf peut-être. Alors, il y a des thèmes avec lesquels je ne pouvais pas mentir, qui étaient en gros la guerre, la paix, la mort, l'amour. Ce sont évidemment le livre, dans le livre il y a de l'histoire avec un grand H. Évidemment, les faits historiques, je ne les ai pas transformés, je ne les ai pas maquillés. Alors ils sont toujours vus à travers le prisme d'un des personnages du livre, mais voilà, je n'ai pas fabulé là-dessus. Il n'y a pas de contre-vérité historique dans ce livre. La question des noms était en effet une question épineuse. J'ai beaucoup tourné autour. Moi, dans mon livre, ce n'est pas la première personne.
C'est Samuel.
C'est à la troisième personne. C'est Samuel, vie double, qui revient dans plusieurs de mes livres. Il était apparu dans mon troisième roman, La ligne des glaces. C'est un alter ego, donc c'est très pratique. Ça me permet en fait d'avoir une certaine liberté. À partir du moment où moi j'ai utilisé un alter ego qui me permet d'écrire des romans, qui me permet cette licence, en fait, je peux faire la même chose avec les autres. Et donc j'ai changé les noms de tous les vivants. J'ai changé leur date un petit peu. J'ai changé les lieux où ils vivent, parce que je ne voulais pas qu'une de ces méditerranéennes que je raconte vienne me voir en me disant pourquoi tu as pris mon nom pour faire du roman, tout ça. Donc ça c'était quelque chose qui, oui, je voulais pas être confronté à ça, parce que je pense que ça pouvait les mettre en difficulté. Il y a notamment quand même des personnages. Moi, je viens d'une famille de cinglés, je le dis, hein, je le dis plusieurs fois, c'est des cinglés. À un moment, je dis, il y a même le rabbin qui déboule en 1870 dans la famille. Il dit, qu'est-ce que je fous dans cette famille de Maboul ? C'est un rabbin ashkénaze qui débarque dans cette. Qui doit circoncire un jeune. Qui vient de naître. On se pose la question, est-ce qu'il est français, est-ce qu'il est juif, et
c'est
le rabbin Ashkenaz,
rapport Crémieux,
au moment du décret Crémieux, et il voit tous ces juifs d'Algérie avec leurs superstitions, avec leurs coutumes ancestrales et tout ça, et évidemment il se dit, mais dans quelle famille de Maboul j'ai débarqué. Et Samuel, au début, ça se passe au cours d'un repas Il y a plein de voix qui on entend beaucoup de voix, on ne sait pas vraiment qui parle. Il y a des propos racistes, il y a des et en fait Samuel lui-même se dit mais qu'est-ce que je fais, pourquoi, mais quelle idée j'ai eu de remettre les pieds dans cette maison, dans cette famille de tarés. Mais
c'est le sentiment. En fait, Samuel, dites-moi si je me trompe, mais c'est pas vraiment son identité juive qui lui importe, c'est son identité algérienne, c'est ses racines algériennes.
Mais il
est obsédé par cette origine.
Il découvre son identité algérienne. Il la découvre. Il n'en était pas tout à fait conscient. Il pensait juste qu'il venait d'une famille juive. Dans le livre précédent, Sabre, c'était centré autour de la famille protestante, donc de la branche paternelle. Où, en fait, par exemple, dans la branche, dans Sabre, je disais, ils inventaient beaucoup. Et le meilleur moyen de leur rendre hommage, c'est d'inventer à mon tour. Moi, dans ma famille paternelle, c'était tous des mythomanes. Donc, tous les hommes étaient des mythomanes. Donc, j'ai raconté des histoires d'hommes qui sont tous complètement mythomanes. J'avais un oncle qui me raconte qu'il a fabriqué le cœur artificiel, le radar automatique, il m'a raconté je ne sais combien de fois quand il a été à Moscou et qu'il a atterri sur l'aéroport. C'était le 007 français et qu'il a failli être assassiné par des espions du KGB. Enfin, et moi j'adore ça parce qu'en fait c'est grâce à eux quand même que j'écris des romans. Et cette fois-ci c'est autour des femmes, c'est inspiré par les femmes de ma famille maternelle qui pour le coup ne fabulaient pas vraiment. Je crois qu'elles étaient plus proches de la vérité, c'était pas des mythomanes, mais elles racontaient beaucoup d'histoires. Qui n'étaient pas toujours. Des fois, la vérité était un peu. On s'éloignait un peu de la vérité.
Alors, notamment, il y a une histoire qu'elles racontent chacune à leur tour, qui est à l'origine des femmes de ce livre, de ces reines, Bayaren, de ces princesses. C'est la reine Kaina, d'origine berbère. Et selon les sources, ce serait elle qui aurait été la première, la propriétaire de ce fameux chandelier, de ce candélabre, que vous avez eu entre les mains, enfin que Samuel a entre les mains, voilà, sur lequel on allume les bougies pour la fête de Hanouka. Et puis il y a d'autres sources qui disent que non, finalement, l'origine de Kaina n'est pas vraiment celle que la grand-mère ou la tante.
Toutes les histoires sont vouées à devenir des légendes. C'est malheureusement, il faut l'accepter. C'est le destin même de la vérité historique, c'est de devenir rien d'autre que de la légende. Puisque sur la Kaina, à vrai dire, on ne sait pas grand-chose quand même. On sait que la Kaina s'appelait, on n'est même pas sûr de son prénom. On ne sait pas si elle s'appelait Dia ou Daya ou Damia. Kaina, c'est un
surnom. Vous la datez du 7e siècle?
Ça, par contre, c'est avéré. Pour les dates, on est dans les années 690 de notre ère. On sait qu'elle a combattu, on sait qu'elle a réuni autour d'elle les tribus berbères. On sait qu'elle a combattu l'envahisseur arabe, musulman. Mais on ne sait pas, on dit qu'elle s'était convertie au judaïsme, on n'en a aucune certitude en réalité.
Je me permets juste de préciser, il y a eu énormément de travaux là récemment sur Kaina et il y a un film qui sort bientôt, La dernière reine, qui était à la Mostra là. Et ils ont fait une grosse enquête autour de ça, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment un film à voir.
J'irai voir le film, merci pour le... Mais je pense qu'il y a, voilà, il y a encore beaucoup de choses. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à savoir sur cette reine. Tout le début du livre, il est un peu dans une espèce de. On est dans une Algérie qui est un peu légendaire. Et je le dis en fait à un moment donné. À partir de 1914, les choses deviennent plus réelles. Pourquoi les choses deviennent plus réelles à partir de 1914? Parce qu'en fait, moi, ma grand-mère, qui s'appelait Mamie Baya, pour le coup, là, je n'ai pas changé les noms des morts, j'ai changé les noms des vivants. Pourquoi je n'ai pas changé les noms des morts? Parce que, au début, je l'avais fait, je les avais changés, et puis j'ai fait des recherches dans les archives, j'avais changé le nom du grand-père, j'avais changé le nom de la grand-mère, j'ai fait des recherches dans les archives, et le grand-père... je suis tombé sur son dossier aux Archives nationales d'outre-mer assez rapidement grâce à l'aide d'une archiviste et tout était là, c'est-à-dire que je ne pouvais pas, je me suis dit, si je lui change son nom, là pour le coup c'est le tuer une deuxième fois en fait, parce que finalement il y a des moments où je suis obligé d'inventer, je suis obligé de le réinventer parce qu'il y a beaucoup de zones obscures, sombres, mais en fait lui donner un autre nom, je crois que c'était vraiment le tuer une deuxième fois. Pour quelqu'un qui s'est suicidé, ce serait quand même un comble. Et pour ce qui est de la grand-mère, au début j'avais changé son nom, je lui avais donné un nom français, et puis je me suis dit mais non, mais elle s'appelait Baya, et en fait lui donner un nom, enfin la franciser, en plus à un moment où il y avait, je sais pas si vous vous souvenez cette histoire autour des prénoms, je me suis dit lui donner un nom français,
ça sonne faux.
Voilà, ça sonne faux. Mais elle avait deux noms. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, elle était...
À partir du moment où la communauté juive est assimilée...
Elle a changé de nom. Voilà. En fait, non, c'est à partir du moment où elle a perdu son mari. En fait, son mari ne l'appelait que par son prénom français. Mm-hmm. Et à partir du moment où elle est devenue veuve, c'est comme si elle a repris son prénom arabe. Elle est redevenue Baya, elle-même. Qui était son nom de... qui était son nom de baptême. Qui était, mm-hmm. Donc c'est assez j'avais trouvé ça assez troublant, le fait qu'elle, et moi j'ai jamais vu personne l'appeler par son prénom français, on l'appelait toujours Manu.
Alors l'histoire des prénoms, elle est aussi présente dans le roman de Kawtar Hadimi, puisque justement quand Leïla et Tarek fuient à Alger pour se faire oublier dans la grande ville, ils vont jusqu'à changer les prénoms de leurs filles, de leurs enfants. Et c'est un épisode extrêmement émouvant parce que
de changer leur prénom.
Ils veulent et Leïla a l'impression que là c'est, elle n'a même plus la main sur ses propres enfants et qu'elle ne peut même plus les nommer comme elle le voulait.
Parce que pour les enfants comme pour les parents, parce que moi ça pour le coup c'est une histoire vraie, j'ai découvert assez tard qu'une partie de mes tantes avaient changé leur prénom et que les prénoms qu'on leur connaissait n'étaient pas leurs prénoms et qu'elles avaient choisi de changer leur prénom. Sans doute suite à ça, mais parce que dans le livre, Leïla, elle a le sentiment que ce roman dont tout le monde parle, parce qu'effectivement, c'est un moment de l'Algérie post-indépendance, où, dans les années 70, au moment où Boumediene, deuxième président de l'Algérie, arrive au pouvoir, et il y a une vague d'arabisation. C'est une des nombreuses vagues d'arabisation du pays, et il y a un souhait de promouvoir la langue arabe et toutes les initiatives en langue arabe. Donc ce premier roman en langue arabe fait date dans le pays. Il est extrêmement important, il est très soutenu par tous les acteurs culturels locaux. Et il est adapté au cinéma. Enfin, l'écrivain est très célèbre. Il est célèbre au point qu'aujourd'hui, il y a des timbres à son effigie en Algérie. Donc c'est vraiment un grand écrivain du monde arabe. Pas connu en France, mais parce qu'il écrit en arabe. Et Leïla, elle a l'impression que donc, la Leïla du roman a pris sa place. Que la Leïla du roman perdurera pour toujours là où elle a été effacée par cet ami. Celui qui a été leur grand ami. Et les filles veulent aussi s'effacer d'une certaine façon, veulent disparaître de toute cette histoire familiale qui les encombre. Elles veulent une autre vie, elles veulent se transformer. Donc elles changent de prénom et puis en se mariant, elles prennent le nom de leur mari et ça devient des personnes autres. Et là, elle a le sentiment qu'on lui a un peu tout pris, qu'on lui a pris son identité, sa description, puisque le roman parle de ses cheveux, de son visage, de son corps, etc. Elle a le sentiment que donc, le livre en quelque sorte volait son histoire, mais aussi que les conséquences de ce livre, c'est que ses propres enfants se sont éloignés de cette Leïla qui devient d'un coup trop encombrante.
Il y a un passage aussi que j'aime beaucoup, et là je ne veux même pas savoir si c'est vrai ou pas, puisque je pense que c'est aussi le pouvoir de l'écrivain qui est le vôtre, c'est de donner aux mots une place, un rôle très important dans ce livre, puisque Leïla apprend à lire seule et à écrire grâce aux livres, aux ouvrages scolaires de ses filles. Et du jour au lendemain, quand elle arrive à Alger, elle se débarrasse des livres et là, elle ne veut plus presque parler. Elle veut se débarrasser des mots qui la font tant souffrir.
Oui, parce que le livre en tant qu'objet devient une arme qui s'est retournée contre elle, qui a été quelque chose qui l'a extrêmement blessée. Et elle ne veut plus être en lien avec cet univers-là, qui est l'univers de la littérature, des mots, des lettres, etc. Et elle l'associe à la littérature et aux écrivains un pouvoir malfaisant. Parce que réellement, ça a été pour elle un pouvoir malfaisant. Parce que Saïd a, en écrivant ce livre, a complètement bousculé et la vie de Leïla et la vie de Tarek, et aussi sa capacité à s'ouvrir au monde, à pouvoir se dire que la littérature était quelque chose de positif, etc. Donc il l'a enfermé dans une espèce de linceul qui a été pour elle le seul refuge possible à ce drame que fut la publication de ce roman-là. Et c'est très particulier. Je pense que moi, ce qui me frappait dans cette histoire et ce que j'ai eu envie d'essayer de raconter dans ce livre, c'est que je pense que si j'avais eu des grands-parents très mondains qui avaient vécu dans une grande ville, qui avaient eux-mêmes écrit ou qui avaient été dans le milieu de la culture, et qu'on aurait écrit un livre sur eux, ça m'aurait sans doute moins fasciné ou intéressé que de se dire qu'en fait c'était des gens qui n'existaient pas dans la vie sociale du pays, qui étaient vraiment des gens tout à fait anonymes, qui avaient une petite vie très tranquille et qui d'un coup se retrouvaient être les personnages de fiction les plus célèbres du pays. Et c'est ce que j'ai eu envie de raconter à travers le choc que vit Leïla. Elle ne cesse de questionner ça, de questionner comment des feuilles de papier peuvent avoir un tel pouvoir sur sa vie. Et en cela, c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que la littérature est dangereuse. Elle est dangereuse pour les dictatures, parce qu'en fait, elle permet de s'évader, elle permet d'imaginer. Moi, certains livres ont eu plus d'influence sur la personne que je suis que des personnes qui ont fait partie de ma vie familiale ou personnelle. Il y a des livres qui ont pu me bouleverser à un tel point qu'ils continuent à m'accompagner des années plus tard. Et je trouve que ce pouvoir de la littérature-là, il est extrêmement difficile à intégrer et à accepter lorsqu'on ne lit pas, lorsqu'on ne vient pas de cet univers-là, lorsque les livres sont quelque chose d'impalpable, et c'est un peu le choc que subit Leïla.
Et autre chose, vous montrez aussi l'ambivalence de l'émancipation féminine, puisque Saïd croit bien faire. Saïd, depuis le début, fait partie, certes, d'une famille plus aisée dans le village.
À peine. Hein.
À peine. Mais il va avoir la chance d'être envoyé en Tunisie, d'étudier. Et à chaque fois qu'il revient au village, il fait sentir à Tarek qu'il y a d'autres choses à faire que de rester berger. Et Leïla, il avait rêvé pour elle aussi un autre destin, et finalement, ouais, il va l'enfermer.
Mais bon, c'est, je pense que c'est jamais bien de... pour un homme de dire à une femme ce qu'elle doit faire et comment elle doit vivre. Mais en effet, c'est la position de Saïd. Après, moi, je n'avais pas envie d'imaginer... Saïd, c'est un personnage qui est en filigrane tout au long du livre, qui arrive, qui repart dans la vie du couple, qui ne cesse de bouleverser le couple du début à la fin. Mais je n'avais pas envie d'essayer d'expliquer pourquoi il avait écrit ce livre. Pourquoi il avait écrit ce livre, c'était assez évident, il voulait être écrivain, mais pourquoi est-ce qu'il avait tenu à garder les mêmes noms des personnages, le même village? Pourquoi est-ce qu'il avait tenu autant à dire ce sont eux, alors même qu'il racontait une autre histoire d'eux, qui n'était pas vraiment l'histoire de Leïla et Tarek? Ça, j'ai pas eu envie, en fait, d'aller l'expliciter ou lui imaginer des raisons. J'ai plutôt voulu dire ce que lui-même disait, c'est-à-dire que c'est un roman, qu'il était féministe et que c'était un roman sur l'émancipation des femmes, et qu'il pense que Leïla, en se mariant, s'est trompée, et que lui, dans ce livre, c'est ce qu'il voulait faire, une espèce d'acte de libération. Ce n'est pas comme ça que ça a été perçu par l'intéressé.
Je crois qu'on me fait signe que le moment des questions est venu. Si vous avez envie, levez la main, on a un petit micro à vous faire passer. Non ? Sinon, moi, j'ai encore des questions. Emmanuel Ruben, vous avez un mot à la fin du roman qui peut aussi s'appliquer peut-être aux autres livres. Jean-Noël Pancrazi, peut-être... vous me direz ce que vous en pensez, c'est de dire que l'Algérie, c'est un archipel chimérique, c'est-à-dire qu'à la fin, alors que votre héros Samuel a réussi et parvenu à avoir son visa, a fait ce voyage en Algérie que les autres membres de la famille n'ont pas pu faire, ça a été si difficile d'aller en Algérie, et quand il rentre, il est quand même encore entre deux eaux, il finit par se demander si l'Algérie où il est allé, c'est bien l'Algérie sur laquelle il écrit, l'Algérie dont on lui parle. Comme si c'était un fantasme perpétuel.
Il faut dire qu'il y passe peu de temps en réalité, que cette Algérie réelle qu'il a rencontrée, elle a été précédée par toute cette Algérie légendaire et presque taboue qui était construite par sa famille de rapatriés, comme on disait, pour des gens qui n'avaient jamais... qui ne connaissait pas la France. C'est quand même assez bizarre d'appeler ça rapatrié. Oui, je joue sur le enfin, El Jazair, ça veut dire les îles. Et donc, ce qui est assez frappant en Algérie, moi j'ai fait moi-même le voyage pour écrire le livre, je ne voyais pas comment je pouvais écrire un livre sur l'Algérie sans y mettre les pieds, pour moi c'était inconcevable. C'est ce côté archipélagique qui est assez fascinant, parce que on passe d'un monde à l'autre en passant d'une ville à l'autre. Et encore, je n'ai fait que l'est de l'Algérie. Par exemple, ce qui m'a frappé, c'est la le livre se passe dans trois villes essentiellement, qui sont Constantine, Guelma et Annaba, qui s'appelait Beaune au temps de la colonisation. Et ce sont trois villes extrêmement différentes. Constantine, c'est une ville qui est construite sur un rocher qui est entouré par un canyon de près de 200 mètres de profondeur, avec 7 ponts suspendus pour la relier au reste du monde. Donc c'est en fait comme une île qui est presque perchée. Je crois que c'était Alexandre Dumas, quand il l'a visité, et il disait qu'il avait l'impression d'être dans Gulliver, dans les voyages de Gulliver, dans l'île volante. Le Guelma, par exemple, moi, on m'avait prévenu, c'était Boualem Sansal qui m'avait prévenu, il m'avait dit: tu verras, je l'attribue à un des personnages du livre, mais c'est en fait, cette phrase vient de Boualem. Il m'avait dit: tu verras, on dirait la Suisse. Et c'est vrai que moi j'y étais en janvier, et c'est une région extrêmement verte, où tout pousse. Donc on voyait le blé en herbe, les sapins aussi dans la montagne. On a souvent une image de l'Algérie, vous savez, souvent dans les livres, on vous présente l'Algérie comme un pays de rocaille et désertique. Ce n'est pas du tout le cas, en fait, en réalité. Il n'y a pas besoin, à la limite, d'y aller pour le savoir. Il suffit de lire des livres de géographie. Et c'est en effet frappant comment la région de Guelma est une région très, très fertile, très verdoyante. Et puis, Annaba, c'est encore un autre monde. C'est une ville sur la côte. C'est un grand port algérien. Pour passer de Constantine à Guelma et à Annaba, ce qui m'avait frappé aussi, c'était il y a une autoroute en fait qui traverse les montagnes avec beaucoup de tunnels, de viaducs, on franchit des cols et tout ça. Donc en fait, c'est vraiment ce sont vraiment des comme à chaque fois comme des petites îles.
Le dernier mot, Jean-Noël Pancrazy, est-ce que vous adhérez, est-ce que l'archipel chimérique, est-ce que l'Algérie représente une île aussi pour vous, inaccessible ?
Pas du tout. C'est-à-dire, archipel chimérique, je comprends tout à fait l'expression qui est très belle. Moi, ce que je vois, ce que j'ai vu, ce que j'ai raconté, c'est la réalité de l'Algérie. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette réalité. J'ai toujours parlé de l'Algérie réelle, c'est-à-dire l'Algérie des événements et aussi l'Algérie très contemporaine. Je suis retourné en Algérie en 2015, à Annaba justement, et je l'ai raconté dans un précédent livre qui s'appelle « Je voulais leur dire mon amour ». L'heure, c'est les Algériens, c'est le peuple algérien d'aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, moi je ne voudrais pas, si vous voulez, qu'il y ait comme du folklore autour de l'Algérie. J'aime pas quand on enveloppe les pays d'un folklore. Bien sûr, l'Algérie est d'une beauté inouïe, mais ce qui renforce cette beauté, c'est le mystère dans lequel cette beauté continue à être, puisqu'il est très difficile d'aller en Algérie encore aujourd'hui. Le jour où l'Algérie sera ouverte, ça sera le pays le plus visité du monde. Je pense, tellement c'est beau et varié, bien sûr. Moi, j'étais dans la région de Sétif, donc bien sûr la plaine des blés, puis aussi dans les Aurès après, avec la Kaena, dont on disait qu'elle était la reine des Aurès, qui était un paysage extraordinaire près du désert et près de Biskra. Mais je voyais, ce que je voudrais dire, c'est que l'Algérie a besoin qu'on s'intéresse à elle pour sa réalité. L'Algérie n'est pas un fantasme.
Je suis tout à fait d'accord.
Voilà, il ne faudrait pas que l'Algérie devienne un fantasme, au contraire. c'est, il faut s'intéresser à ce qu'a fait le peuple algérien dernièrement, cette espèce admirable. Tout le Irak est un mouvement extraordinairement, qui a été salué dans le monde entier, qui est un mouvement merveilleux où tout le peuple algérien était dans la rue. Ça, c'est réel. Et ils n'ont même pas le fantasme, les Algériens n'ont même pas le fantasme de partir. Ce que j'ai remarqué en 2015, beaucoup, beaucoup d'Algériens, même sans travail, même tous ces jeunes, veulent rester parce qu'ils aiment leur pays. Ils aiment profondément leur pays, ils veulent rester. Bien sûr, il y a certains, les pauvres qui prennent la mer et on sait très bien ce qui leur arrive, mais la majorité de la jeunesse algérienne adore son pays et c'est cette adoration réelle, je dirais, pas fantasmatique. Et moi, je veux m'interdire d'avoir le moindre fantasme. Bien sûr, je réinvente mon Algérie. Mais quand j'ai fait ce voyage, vous voyez, je ne voulais pas, surtout pas, revenir à tout prix voir la maison natale, le quartier natal, comparer. Surtout pas comparer. Bien sûr, la vie passe, les gens ont changé, les Algériens ont changé le paysage. Mais surtout pas avoir ou même constituer à moi-même le fantasme de l'Algérie perdue. Peut-être elle est perdue pour moi, elle n'est pas perdue pour les autres. Vous voyez,
merci
c'est
beaucoup,
pas,
voilà. Jean-Noël
Fancassi. Moi, je voudrais juste réagir quand même quelque chose qui m'agace énormément, étant la seule Algérienne sur ce plateau. On parle beaucoup de l'inaccessibilité de l'Algérie, du visa, etc. Enfin, je voudrais juste remettre les choses d'équerre. Pour avoir un visa en Algérie, il suffit d'aller à l'ambassade. Et effectivement, quand on est français, on n'a pas l'habitude de demander des visas pour voyager. Mais je voudrais juste rappeler que pour venir en France, c'est extrêmement difficile. Pour avoir fait le chemin inverse, c'est-à-dire avoir demandé un visa et venir en France, moi, ça a été une année de démarche pour pouvoir venir étudier un master en France. Et je passe sur ce que ça coûte de démarche en termes d'argent pour simplement pouvoir demander un visa qui, dans 95% des cas, est refusé aux étudiants algériens et qui, en ce moment, est refusé à absolument tout le monde. C'est-à-dire que moi, mes parents ne peuvent pas venir me voir parce que Gérald Darmanin a décidé de refuser des visas. Je trouve quand même que c'est un peu bien quand même de redire les choses. Je comprends que pour les Français, souvent on me le dit, ah, j'aimerais aller en Algérie, mais il faut un visa. Je comprends tout à fait que ce soit difficile. Parce que vous n'avez pas l'habitude, en tant que Français, de demander des visas, parce que ce qui est formidable quand on est Français, moi je trouve ça génial, de pouvoir voyager dans le monde entier, de se dire que tiens, j'ai un passeport, je prends un billet, je vais aller visiter, je vais aller en Amérique latine, je vais aller, etc. Ça, pour nous, quand on est en Algérie, quand on est Algérien, ça n'existe pas, ce n'est pas que c'est même pas une question de finance, c'est d'ailleurs financièrement compliqué, mais c'est que ça n'existe pas, c'est pas une... Enfin, on n'a même pas cette possibilité-là de le rêver, je veux dire. C'est pas une... Donc, je veux bien qu'on parle de difficultés, de galères, d'inaccessibilité, etc. S'il faut un visa pour l'Algérie, c'est parce qu'il faut un visa en France. Et donc, juste pour réexpliquer les choses, en Algérie, on a décidé d'appliquer l'échange réciprocité sur les visas. Si en France, il n'y a plus de visa pour les Algériens, il n'y aura plus de visa pour les Français non plus en Algérie. Je veux dire, c'est juste la règle du jeu. C'est que si on demande des visas aux ressortissants algériens, on en demandera à tous les autres. Et c'est vraiment... Ce n'est que ça. Après, beaucoup, moi, je connais énormément de Français qui vont en Algérie. C'est vraiment... Il y a des consulats partout. Il suffit d'aller demander un visa. Il y a des hôtels sur Internet. Enfin, tout se fait sur Internet. Et donc, effectivement, c'est aller au consulat, déposer un dossier, revenir 3 jours plus tard, récupérer un visa. Mais c'est pas plus que ça, et c'est un pays qui vous accueillera, mais vraiment, les gens vous accueilleront à bras ouverts. Enfin, je suis sûre qu'Emmanuel a passé un super moment en Algérie et que ça s'est très bien passé.
Merci beaucoup, mais là, je suis vraiment désolée, on est obligé de rendre la salle parce qu'il y a une autre table.
Bienvenue chez vous en Algérie.
Les gens, mais pas l'État. Voilà, c'est tout ce qui voit la différence qu'il faut faire.
Exactement comme en France.
Les gens, le peuple algérien est merveilleux. L'État, non. C'est l'État qui refuse, pas les Algériens eux-mêmes. Il faut que ça
merci
soit clair.
Merci d'avoir voilà. Précisé ça.
Voilà.
Merci à tous.
Moi, j'aimerais que mes parents viennent me voir.